Bonjour et bienvenue dans l'émission mensuelle de l'ADR 82, Les Voix Paysannes. Ce mois-ci, dans l'arboriculture, un patrimoine à préserver, nous allons parler de vergers de pommes, pruniers, pêchers, mais finalement, qu'est-ce que l'on cultive exactement en fruits en Tarn-et-Garonne? Eh bien, la pomme se place en tête puisqu'elle occupe la première place en termes de capacité de production au niveau national dans le département. À noter aussi que l'arboriculture est la deuxième production après la culture de céréales cultivée en Tarn-et-Garonne avec un peu plus de 720 exploitations. Néanmoins, ce secteur ne reste pas indemne face à l'enjeu du renouvellement des générations agricoles. Pour en savoir un peu plus sur les vergers du département et leur histoire, leurs évolutions, nous sommes allés à la rencontre de deux cofondateurs du groupement de producteurs biologiques du département au Saver du Quercy, Michel Moll et André Ligny. Bonjour à tous, donc je suis aujourd'hui avec Michel Moll, cofondateur d'au Saver du Quercy. Bonjour Michel.
Bonjour. Donc je suis Michel Moll, plus réactif puisque je suis paysan où j'étais paysan et actif. Donc maintenant je le suis moins et je suis cofondateur et co-gérant d'une structure commerciale qui s'appelle Saveur du Quercy.
Est-ce qu'il serait possible donc de nous en dire un peu plus sur l'histoire et les évolutions de l'arboriculture dans le Tarn-et-Garonne?
Historiquement, faut avoir une vision globale un petit peu du département. Et le département, faut prendre ces références-là et avoir ces informations-là, qui est un des plus petits départements de France et séparé de manière agronomique en deux, globalement en deux. Il y a donc les terres d'alluvion. Parce qu'il faut savoir que le Tarn-et-Garonne est traversé par quand même la Garonne, qui est un fleuve, le Tarn qui se jette dans la Garonne et l'Aveyron qui se jette dans le Tarn. Donc tout ça, ça crée toute une zone en direction du sud, quoi, entre la Française, où on est presque, et en direction de Toulouse, hein, tout et plus la plaine vers Moissac aussi. Donc ça, ce sont des terres d'alluvion très très riches. Du coup, on a un type d'agriculture. Je vais y revenir dessus. Ensuite, la deuxième partie du département, ce sont les coteaux du Quercy. Donc toutes les zones que moi j'appelle d'illusion, parce qu'on a des terres qui sont plus compliquées à travailler, moins riches, et voilà. Donc il faut savoir que l'agriculture, eh ben, c'est quand même la terre et le sol qui fabriquent les agriculteurs et l'agriculture. Donc sur des zones riches, ben, on a des gens qui vont aller très vite dans l'intensification, vers une agriculture industrielle, entre guillemets, alors que sur les zones de coteaux, on va avoir une agriculture beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliquée, beaucoup plus dure, avec de la diversité et de la diversification aussi. Donc voilà, donc on a. Et ça, c'est les orientations qui se sont prises donc depuis 50 ans, depuis un demi-siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a vu se développer sur les terres d'alluvion, sur les terres riches, des vergers de pommiers principalement, parce que là, on a ce sont des machines à produire, hein, donc avec des gros volumes. Donc et quand on produit des gros volumes, on est capable de baisser le prix, parce qu'on baisse notre coût de production. Ça, c'est valable pour tout le monde, hein, c'est une règle de base aujourd'hui. Ça, je le rappelle aussi, normalement, j'aurais pu le rappeler au début, mais on vit dans un monde capitaliste au sens propre du terme, c'est-à-dire tout se vend, tout s'achète. Et donc, c'est la loi du marché qui régit les équilibres. Donc, plus on baisse les coûts de production, et plus on peut vendre moins cher. Donc, l'acheteur, il va toujours moins cher. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Donc, globalement, hein, évidemment. Parce qu'après, on peut mettre en avant des critères qualitatifs, des critères de bio. Mais bon, à un moment donné, le consommateur, la décision finale, c'est le tarif. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc on est sur la loi de l'offre et de la demande. Et donc si on a un coût de production très faible, eh ben, on vendra. Et si on a un coût de production élevé, on vendra moins bien. Donc ça veut dire qu'après, il faut mettre un autre référentiel pour arriver à conquérir le consommateur. Bon, ceci étant, de manière globale, sur ces terres riches, s'est développé donc des gros vergers et des grosses unités pour servir une demande qui se concentrait aussi. Hein, la grande distribution, donc en face, on a des gros producteurs, on a des gros producteurs qui produisent, et en face, on a la grande distribution qui sont de gros acheteurs. Donc tout ça se met en place et s'équilibre. Donc ce sont les gens se marient parce qu'ils s'entendent bien, quoi. Ils ont certains ont de gros besoins et d'autres sont capables de faire des gros volumes de production. Et ensuite, sur les zones dites de Quercy, sur lesquelles nous on est, là c'est plus compliqué, donc ça nécessite une adaptation. Donc historiquement, on était sur des exploitations de type polyculture élevage. Moi, quand j'étais adolescent, mon père, et même jusqu'à notre installation, hein, donc j'étais adolescent dans les années 70 et je me suis installé en 82. Donc on avait, quand on s'est installé, des blondes d'Aquitaine, des vergers, donc on commençait avec un petit peu de cerise, un petit peu de pêche. Ensuite, on passait sur le raisin de table, parce qu'ensuite, on a la chance, dans nos coteaux, d'être sur une zone d'appellation qui s'appelle le Chasselas de Moissac. Donc on a du raisin de table, donc en zone d'appellation protégée, le Chasselas de Moissac. Et ensuite, on faisait un petit peu de pommes aussi pour l'hiver. Donc voilà, donc ça, et des céréales, éventuellement, et des prairies pour les animaux, quoi, voilà. Donc ça, c'était des exploitations typiques qu'il y avait dans les années 1950 à 1970. Donc après, donc, il y a eu l'industrialisation de l'agriculture, les terres riches qui se sont développées, ça a accéléré. Donc nous, ben, on comprend très vite que des pommiers, on ne pouvait plus en faire parce que les zones de plaine étaient beaucoup plus compétentes et avaient un coût de production plus faible. Les vaches, c'est pareil. Donc les exploitations de coteaux, c'était des petites exploitations. Donc avec un élevage de 20 vaches, ben, on s'apercevait que le prix de la viande n'ayant pas bougé en 30 ans, ça devenait compliqué. Donc il nous restait un petit peu encore le Chasselas de Moissac qui a été un fil rouge dans le raisin de table depuis très très longtemps, hein, probablement depuis plus d'un siècle, hein, sur ces exploitations. Et voilà, donc aujourd'hui ça change un peu, on va y revenir peut-être, mais aujourd'hui ça change. Mais le Chasselas de Moissac a été un véritable fil rouge, et l'été aussi, oui, je l'avais oublié tout à l'heure, il y avait de la prune de table de type Reine Claude, qui sont des cultures très adaptées à notre région, qui s'adaptent au sol argilo-calcaire des coteaux. Donc voilà. Donc voilà. Donc tout petit à petit, entre 80 et 2000, alors tout ça, on a vu évoluer une concentration de gros volumes de production dans les zones de plaine riche. Et ensuite, les petites exploitations familiales, ben, elles ont disparu au profit de gros agriculteurs qui achetaient le foncier pour faire de la céréale, pour toucher les primes PAC. Voilà. Et donc toutes les exploitations familiales, beaucoup ont disparu. Bon voilà, donc tout ça, ça s'est passé voilà, entre 80 et 2000. Hein. Donc nous, on a réussi à maintenir notre structure parce que justement, dès 82, on s'est mis à faire du circuit court et à aller chercher de la valeur ajoutée directement aux consommateurs, hein, à faire les... Voilà, donc voilà un petit peu l'histoire du département, comment ça se passe. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je termine là-dessus, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit donc le bio dans les années voilà 2005-2010, qui s'est entre 2005 et 2020, qui s'est bien développé, a redonné une bouffée d'oxygène à ces zones de coteaux un petit peu en difficulté, parce que il y a eu de la valeur ajoutée sur la vente du produit, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, l'offre était inférieure à la demande. Donc là, hop, les prix sont valorisants, on va dire. Après, on peut juger si c'est élevé ou pas élevé, mais les prix sont valorisants pour la production. Donc du coup, ça a redonné une bouffée d'oxygène jusqu'en 2020. Où là, ça, il y a une zone de turbulence là, dans le bio qui est pas sans conséquence, mais bon, on peut reparler ultérieurement. Mais voilà un petit peu, je sais pas si c'est assez clair, mais toute la chronologie sur ma carrière professionnelle, c'est-à-dire sur 40 ans, hein, de 1980 à 2020, un petit peu la structuration et l'évolution des entreprises, quoi. Et donc, en effet, si on fait un lien avec la transmission, Je pense qu'il y a des transmissions qui se sont pas très bien passées, ben parce que c'était dur. Il fallait aller chercher de la valeur ajoutée sur ces petites exploitations familiales qui étaient en déclin. Et bon, voilà, nous, on a eu la chance d'aller la chercher en faisant du marché entre 1980 et 2000. Et ensuite, on a continué en faisant du bio. Donc, du coup, Mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Tout le monde n'en a pas fait ce choix-là. Et heureusement, il n'y avait certainement pas la place pour tout le monde. Mais voilà, donc, du coup, les exploitations se sont agrandies de manière générale. Et il y a une baisse drastique du nombre d'exploitants sur le département, quoi. Surtout sur les zones de coteaux. Voilà un petit peu pour la présentation que je peux faire sur le département.
Je reviens un petit peu à ce que tu as dit sur la transmission et un peu le profil de. Tu as parlé de petite exploitation familiale. Est-ce que ce modèle, du coup, de petite exploitation familiale, il perdure?
Bon, alors, je sais pas, moi je vais te dire ce que je vois aujourd'hui et que bon nombre de gens comme toi, normalement, qui sont dans le milieu, voient. On voit du coup, le type d'exploitation familiale qu'on avait entre 1960 et entre 1950 et 1980, qui était 20 hectares, là, sur les coteaux, avec des vaches, un peu d'arboriculture et un petit peu de céréales. Donc ça a tendance à disparaître. Là, aujourd'hui, les installations, donc soit il y a des reprises sur des grosses exploitations, même dans les coteaux, soit il y a des installations hors cadre familial, en effet, sur des très petites surfaces, avec des gens qui font du maraîchage et qui font du circuit court. Et principalement aussi en bio. Voilà. Donc, et là, donc, le bio a permis ça, là, dans les années, avec entre guillemets, ce qui pouvait s'appeler des néo-ruraux, des gens qui, hors cadre familial, quoi, le terme technique, c'est ça, qui n'étaient pas forcément issus du milieu agricole, et qui en avaient marre de leur situation professionnelle, de bosser en ville, enfin, qui voulaient changer de situation professionnel. Et donc, soit il loue une petite structure de 2-5 hectares et se teste un petit peu en faisant du maraîchage et en allant faire le marché du coin. Bon, après, j'ai un avis sur la question, je sais pas si vous intéresse, mais. Et bon, je pense que ça, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça parce que du coup, il y a eu quand même une mouvance relativement importante dans cette direction-là. Et là, les marchés saturent très vite. Je veux dire, sur du maraîchage, qui est globalement une plante annuelle, il s'agit qu'il y ait des conditions météo favorables et tout ça. Vous avez de suite beaucoup trop de tomates, de suite beaucoup trop de melons. Mais bon, le consommateur, il n'achète pas 3 fois plus, quoi. Il mange ce dont il a besoin. Et donc, du coup, les marchés de plein vent locaux. Et, bon, ça, c'est valable sur tous les départements, hein. Moi, je suis responsable régional au niveau de l'interprofession bio et tous les acteurs, c'est pareil sur tous les départements. C'est-à-dire que tous les marchés locaux saturent, tous les circuits courts, en fait, saturent très vite, hein, parce qu'il y a une offre qui est assez pléthorique. Hein, et aujourd'hui, on en voit qui arrêtent même de faire le marché et du coup, qui viennent nous apporter sur du circuit long à nous leur production. Sauf que du coup, nous, sur un circuit long, on n'a pas la même valeur ajoutée. Enfin, la valeur ajoutée, on la partage. Donc voilà, moi cette année, j'ai reçu 2 agriculteurs récemment installés sur le secteur, ou 3 même. Et il y a longtemps que je n'en avais pas reçu comme ça, ils arrivent, ils vendent de leur maison en banlieue parisienne ou en banlieue toulousaine à 400 000 euros, et ils viennent acheter une ferme sur les coteaux du Quercy à 300 000 euros, et ils disent, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Voilà. Mais donc, du coup, je suis un peu inquiet, mais bon, ça c'est lié à mon âge, je suis un peu inquiet pour eux, mais c'est une bonne chose. Je veux dire, ils ont le courage et l'envie de démarrer des choses et de reprendre et de tester des choses, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien pour notre tissu rural, parce que moi je suis un défenseur du tissu rural et notamment de nos zones difficiles. Donc c'est plutôt bien d'avoir un melting pot comme ça de gens. Bon. Donc, je suis pas inquiet par rapport à ça. Je suis plus inquiet sur, voilà, Nous, on a vécu. Moi, j'ai appris de mon père que voilà, la valeur travail, c'était quelque chose d'important, qu'il fallait aussi avoir de l'inertie. L'agriculture, c'est beaucoup d'inertie, c'est-à-dire être capable de passer 3 années à perdre de l'argent pour en gagner la quatrième, quoi. Mais ça aujourd'hui, on est dans une société où tout va tellement très vite et où tout est très cher, donc ça peut être compliqué. Mais en effet, c'est hors cadres familiaux qui s'installent. S'ils sont pas dans un besoin financier, s'ils n'ont pas une exigence financière très importante, ils peuvent rentrer dans cette logique-là. C'est-à-dire que moi j'ai déjà entendu, voilà, le métier d'agriculteur, les paysans, ce sont des gens qui sont capables de faire le dos rond, quoi. C'est pendant très longtemps, quoi.
Et une dernière question, finalement, est-ce que l'arboriculture, c'est une culture qui attire dans le milieu agricole?
Moi, elle m'attire toujours. Je peux répondre pour moi. Et je pense qu'elle attire, oui, parce que il y a de la fabrication de valeur ajoutée. Donc c'est ça qui attire quand même. C'est que, bon, globalement, quand même, aujourd'hui, malgré tout, même si on est un peu alternatif et en s'installant, il faut quand même. Tout est basé sur l'argent, quoi. Enfin, il y a beaucoup trop de choses qui sont basées sur l'argent. Et l'arboriculture, c'est des produits à forte valeur ajoutée, quoi. Plus que le maraîchage, même. Donc, oui, ça attire. Et le Tarn-et-Garonne a un véritable potentiel sur l'arboriculture. C'est historiquement un département arboricole. Alors, j'ai une explication aussi pourquoi c'est un département arboricole. Bon, d'abord, il y a les terrains qui sont très riches, qui favorisent le développement rapide et la croissance rapide des arbres, des fruitiers, avec des hauts rendements. Et ensuite, historiquement, au moment à la fin de la guerre d'Algérie, donc l'État a financé quand même des rapatriés d'Algérie et les a aidés à s'installer. Et ces gens-là, en Algérie, ils avaient des vergers de pommiers, donc ils sont venus reproduire ce qu'ils faisaient en Algérie, en général. Donc les premières grosses exploitations de pommiers, c'était les pieds-noirs, puisque c'était les rapatriés d'Algérie, qui venaient faire des pommiers dans le Tarn-et-Garonne. Toutes les grosses exploitations de pommiers. Alors après, ça a changé, mais il y a eu des cycles comme ça, parce qu'eux, ils ont coulé. Parce que du coup, la France, c'est pas l'Algérie, donc ils n'ont pas fait travailler les Français comme ils faisaient travailler les Algériens. Et du coup, après, ça a changé, mais ça, c'est l'histoire de la France. Donc, voilà.
Nous venons d'écouter Michel Moll, co-gestionnaire de Haute Saveur du Quercy. On se retrouve après la coupure musicale pour la suite de l'émission Les Voix paysannes, l'arboriculture, un patrimoine à préserver, où nous partirons à la rencontre d'André Lignon, ancienne productrice arboricole.
Les bords de la Loire qui s'endort, loin des vagues de la mer du Nord, c'est par toi qui as su me plaire, par toi que je les ai découverts. Les champs de tabac de Dordogne et les maïs de la Gascogne, quel flash pour un fils d'Hollande, et c'est pourquoi je te demande. Apprends-moi, toi, toutes les choses qu'il y a chez toi en frac, les pêches de Provence, les raisins de Moissac. Apprends-moi chez toi, on apprend vite quand on est deux, pour conjuguer le verbe aimer. Fais-moi visiter la Sologne et pour me parler de Bourgogne, fais-moi goûter le Saint-Amour, j'en boirai pour toi tous les jours. Je veux aller à cette adresse en mai pour un bain de tendresse, dîner sur les nappes à carreaux, déshabiller les artichauts. Apprends-moi, toi, toutes les choses qu'il y a chez toi en frac, les pêches de Provence, les raisins de Moissac. Apprends-moi chez toi, on apprend vite quand on est deux, pour conjuguer le verbe aimer. Et puisque les dieux y sont nés, partons un méditerranéen. Allons y dorer notre peau, et plus que nous serons très beaux. Filons loin du monde et du bruit, dans la fraîcheur de Chambéry. Picorer à de près du lac les grains de raisin de Moissac. Apprends-moi, toi, toutes les choses qu'il y a chez toi en frac. Les pêches de Provence, les raisins de Moissac. Apprends-moi chez toi. On apprend vite quand on est deux, pour conjuguer le verbe aimer. Apprends-moi toi toutes les choses qu'il y a chez toi en frac. Les pêches de Provence, les raisins de Moissac. Apprends-moi chez toi. On apprend vite quand on est deux, pour conjuguer le verbe
Nous venons d'écouter Simon Gobès avec Les raisins de Moissac. De retour dans l'émission Les voies paysannes, l'arboriculture, un patrimoine à préserver de l'ADR 82. Nous donnons maintenant la parole à André Lignon, agricultrice, productrice en arboriculture, polyculture à la retraite, qui va nous partager son expérience d'installation et de transmission.
Bonjour, je m'appelle André Huot, épouse Lignon. Je me suis installée en 1983 parce que j'avais envie de faire agriculture, agricultrice. Et je me suis installée avec un associé, en fait. Au début, je me suis installée seule et ensuite j'ai trouvé un associé qui avait une autre ferme. Et on a démarré ensemble un GAEC en 1985, je crois. Mon mari travaillait à l'extérieur et la compagne de mon collègue aussi. Ce qui nous a aidés pour l'installation parce que c'était quand même des conditions assez difficiles. On a acheté une ferme. Enfin, moi, j'ai acheté une ferme. Mon compagnon, mon associé, lui, avait une ferme. Mais voilà, moi, je l'ai achetée. Donc, c'était assez difficile au niveau économique. Et on a créé ce GAEC en se disant que c'était plus intéressant de travailler à deux, de mettre les moyens de production ensemble, plutôt que d'avoir deux exploitations individuelles. Pour nous, ça nous semblait très important de travailler en commun, ce qui fait qu'on a regardé, on s'est installé dans une région qu'on ne connaissait pas du tout. Moi, je suis de Normandie. Mon collègue est de l'Est, et on a acheté en Tarn-et-Garonne. Voilà, donc on ne connaissait ni le milieu agricole tarn-et-garonnais, ni les productions. Donc il a fallu qu'on apprenne tout. Moi, j'étais de milieu agricole, donc le travail agricole ne me faisait pas peur, mais les productions, je ne connaissais pas du tout. Mes parents étant maraîchers en Normandie, et mon collègue, son père était architecte du côté de Metz. Donc il n'avait aucune formation. Et on a travaillé ensemble pendant 30 ans, en GAEC. On a regardé comment on pouvait s'installer dans le coin et on a regardé ce que faisaient les autres agriculteurs. Donc on était dans une région de coteaux, du côté de la Française. Donc on s'est dit, qu'est-ce que font les gens? Ils font de la vigne, ils font des prunes, du melon et des oies. Donc on a commencé sur ces productions en ajoutant, comme on avait beaucoup de coteaux qui n'étaient pas du tout exploités, on a fait un élevage ovin aussi, au début. Ovin, donc des moutons pour la viande, et des oies, le gavage. Et petit à petit, on a fait du melon, on a fait aussi des tomates, des choses comme ça, ça n'a pas très bien marché. Et on s'est dit, il faut planter. Donc, sur les 4-5 premières années, on a fait des plantations, donc il n'y avait pas de revenus, puisque c'était des investissements. Donc c'était les oies et c'était les melons. Et les moutons, qui devaient nous rapporter de l'argent, mais le mouton, on est très mal tombé. C'était l'époque où la Nouvelle-Zélande est rentrée avec le Commonwealth en Europe. Et donc les prix des moutons ont chuté. Donc on a arrêté le mouton. Et petit à petit, on s'est spécialisé quand même dans la vigne, en prenant une petite ferme en fermage, où il y avait de la vigne, et on a demandé aux agriculteurs à qui on prenait ce fermage de nous montrer comment on travaillait la vigne. Voilà, donc ça, on est arrivé en production avec 4 hectares de vignes, du Chasselas, de Moissac. Donc on a tout appris, mon collègue et moi. Moi, la vigne, je ne connaissais pas du tout. Le palissage, je ne connaissais pas, les pamprages, enfin tout. Donc j'ai tout appris avec cette vieille dame qui nous avait passé ses terres en fermage. Et nous, on a planté de notre côté. Après, on a planté des prunes, parce que les voisins avaient de la prune aussi. Et c'était une production locale qui était... On est quand même le premier département français aux producteurs de prunes, de table. Prunes et un peu de cerises. Et on a fait beaucoup de melons.
Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières au long de votre carrière, vu qu'on parle beaucoup donc d'aléas climatiques en arboriculture, aussi économiques? Qu'est-ce qu'il en a été pour vous?
En ce qui concerne l'activité économique, on peut dire quand même que ça a été des années très difficiles. On a été à un moment où on a failli arrêter complètement. On avait grêlé une année en 92, on a gelé toutes les prunes. On avait des pêchers à l'époque, on avait planté des pêchers, j'ai oublié de le dire, donc c'était prunes, pêches et vignes et melons. Tous les pêchers ont gelé. L'année suivante, on a eu surproduction de pêche, donc invendable. On a tout mis presque au retrait. Ça a beaucoup découragé des gens du Tarn-et-Garonne, d'ailleurs, où la production de pêche a disparu à ce moment-là. Puisque entre l'année de 92, on avait gelé, les expéditeurs sont allés chercher la pêche en Espagne. Et donc l'année suivante, il y a une surproduction de pêche. Et donc les prix se sont effondrés et ils ont continué à acheter en Espagne. Donc nous, on n'a plus notre place en pêche dans le Tarn-et-Garonne. Pratiquement, il n'y a plus de pêche. Donc les conditions quand même agricoles sont très difficiles parce qu'il faut dire qu'en fruits et légumes, nous n'avons pas du tout d'aide PAC. Ça a changé depuis quelques temps, mais ça représente très très peu puisque la PAC est répartie sur toutes les surfaces agricoles, qu'ils soient céréales ou fruitiers ou vignes. Mais ça représente, je ne sais pas, même pas 100-150 euros à l'hectare. Donc en arbo, ça ne représente rien. En céréales, ça peut aider parce que quand on a beaucoup de surface, ça va. Donc on a failli quand même arrêter l'agriculture, mon collègue et moi. Et puis on s'est dit, non, allez, on va continuer. Et avec d'autres collègues avec qui on s'était associés pour faire de la vente directe, c'est à la famille Moll, que vous connaissez peut-être, on s'est un peu entraidés, on s'est un peu soutenus.
Effectivement, c'est une installation donc assez riche avec beaucoup d'évolutions sur la ferme. Et donc au moment de passer la main, d'envisager la transmission, comment ça s'est passé?
Il a fallu au bout de 30 ans de travail en commun, moi je suis arrivée à 60 ans. Et avant ces 60 ans, je me suis dit quand même, bon, ma retraite, je pouvais la prendre à 61 ans, à l'époque. Et on a commencé à réfléchir comment je pourrais transmettre ma ferme. Parce qu'en fait, mon collègue, lui, il n'y croyait pas trop. Il se dit que c'était trop dur, c'est un travail trop dur, c'est un travail où on ne gagne pas beaucoup d'argent. Et donc, il me dit que ce n'est pas transmissible. Et moi, je lui répondais, mais attends, nous, on a eu un travail très difficile, on y croyait. On a voulu démarrer ensemble, et ce n'était pas des conditions faciles, et on l'a fait. Et ça nous a plu, on a vécu 30 années de travail, on peut dire, intense, mais où on a été satisfait de ce qu'on a fait. Donc, pourquoi ne pas transmettre? Bon, il m'a dit, tu fais comme tu veux. Donc, moi, j'ai commencé à réfléchir, j'ai fait des formations avec l'ADR sur la transmission, comment transmettre, tout ça. Et petit à petit, on s'est dit, bon, on a demandé à nos enfants. Moi, j'en ai 3 filles. Mon collègue en a 4. Et aucun n'avait envie de reprendre l'agriculture. Ils ont travaillé avec nous. Ils ont vu que c'était difficile, qu'on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Donc, notre société, actuellement, c'est pas ce que ça intéresse déjà. Moi, je pense que chacun doit mener sa vie comme il en a envie. Moi, j'ai choisi l'agriculture, ça me plaisait. Mes parents l'avaient fait, mais ils n'étaient pas d'accord pour que je travaille avec eux. Et c'est mieux aussi, je pense, parce que je ne serais pas toujours entendue avec mon père, par exemple. Donc, je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie dans la vie. Et voilà, et donc les enfants de mon collègue étaient pareils, ils n'avaient pas envie de travailler avec nous. Donc on a réfléchi à si on transmet notre ferme, comment on peut la transmettre, et voilà. Et donc on a mis des annonces dans les journaux, à la Confédération Paysanne, on a travaillé avec le répertoire de l'installation de la Chambre d'agriculture. Et voilà, pendant plus d'un an, on a attendu et on ne voyait pas trop de gens arriver. Après, on en a vu qui sont venus. Ils ont dit « Ah oui, mais ce n'est pas les productions qu'on veut. » Je dis « Mais vous pouvez changer, sachant qu'arracher, ce n'est pas rien quand même. Mais vous pouvez faire d'autres productions. » On était ouverts avec mon collègue à toutes possibilités. Hein. Du maraîchage, de l'élevage, continuer l'arbo, faire, je sais pas, mes céréales, non, puisqu'on n'avait qu'en fait une petite surface à tous les deux. On avait 27 hectares. Donc, en coteau, donc c'est pas des terres pour faire des céréales. Hein. Voilà, donc on a vu des gens, ça correspondait pas, ceci, cela, c'était pas une question de prix. Nous, on disait qu'on était, c'est pas une obligation de vente. On voulait quand même rester sur nos deux habitations. Donc, mais il y a des possibilités dans le village pour louer des maisons ou des choses comme ça. Donc voilà. Et au bout du compte, à force de discuter autour de nous, tout ça, il y a des jeunes qui sont venus nous voir et disent « Ben voilà, moi j'ai des problèmes, je voulais reprendre la terre de l'exploitation de mon père, mais je suis fâchée avec mon père, il m'a mis à la porte. Mais est-ce que, voilà, nous ça nous intéresserait peut-être ce que vous faites ?» Donc ils sont venus voir, tous les deux, pour la production. Eh bien, on s'est dit, on va faire un effort, on va l'employer sur l'année, pendant un an, pour qu'il voit le cycle des cultures, tout le travail qu'il y a, en tant qu'agriculteur et non pas en tant que salarié. Donc, il nous accompagnait tous les jours. Mais donc, ça s'est fait, disons, assez rapidement, après un an de travail en commun avec lui, en tant que salarié. Et on a transmis notre ferme donc, en location. Donc, ils ont repris le GAEC, toutes les parts du GAEC, ils ont acheté les parts du GAEC, plus le matériel. Ce qui fait... toujours est-il qu'au bout de 2 ans, il avait récupéré son investissement en achat, de l'achat qu'il nous avait fait, et des parts sociales sur le GAEC. Et il est toujours en fermage sur de nos deux exploitations. Ils ont repris tout, c'est le même GAEC, mais avec deux personnes différentes.
Merci à nos invités, Michel Moll et André Lignon, tous les deux cofondateurs du groupement de producteurs aux saveurs du Quercy, pour nous avoir partagé leurs expériences et leurs connaissances de l'arboriculture en Tarn-et-Garonne. C'est la fin des Voix paysannes, l'arboriculture, un patrimoine à préserver. On se retrouve le mois prochain, même jour, même heure, pour une émission sur l'agriculture en collectif. Pour l'heure, ne manquez pas de faire un tour sur le site de CFM et de l'ADR82ADEAR, pour retrouver nos actualités et écouter nos émissions. À bientôt !